Donc ce matin, j'aimerais parler de quelques fondements pour les relations familiales, comment vivre en famille, sur la base d'un texte dans Éphésiens, un texte qui finalement est très court, 4 versets, on peut les écouter, je vais peut-être vous les lire. « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. » Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Voilà, tout est dit sur l'éducation en 4 versets. Facile ? Non, pas tout à fait. Ça fait quelques mois qu'on est maintenant dans Éphésiens, et puis on sait bien que Paul, s'il aborde un thème, il ne l'aborde pas d'une manière isolée de ce qui précédait, de ce qu'il a dit auparavant. Ça va être important dans la logique de ce que je vais partager. J'aimerais vous rappeler que Paul écrit donc à des communautés chrétiennes, et plus tôt dans la lettre, il a déjà dit à cette communauté chrétienne que les uns et les autres font partie ensemble de la famille de Dieu. Il utilise ce terme, vous faites partie de la maison de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Pour le chrétien, comme pour le juif d'ailleurs, la famille nucléaire, la famille comme nous les connaissons, nos familles, ne sont pas là comme des petits îlots à quelque part dans ce monde perdu, mais font partie de la famille de Dieu. C'est déjà un cadre un peu plus large. Bien sûr, la famille de Dieu, l'Église, vit dans le monde. Et dans ce sens-là, on est bien sûr aussi placé dans le monde. Mais avant tout, Paul s'adresse à ceux qui reconnaissent qu'ils ont un maître au-dessus d'eux, comme membres de l'Église. Ils ont Jésus-Christ comme Seigneur, ce qu'on vient de confesser encore tout à l'heure. Mais il y a un privilège qui découle de cette appartenance au Christ, c'est le privilège de suivre le Christ, comme modèle par excellence. Et pour cela, le texte qu'on a entendu tout à l'heure, qui nous montre l'humiliation du Christ, qui s'est fait serviteur jusqu'à donner sa vie, est tout à fait pertinent aussi pour nos familles, comme c'est pertinent pour nos couples. Donc, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on réfléchit sur la vie du chrétien ou du couple ou de la famille dans le monde est toujours basé sur l'exemple du Christ. Et c'est l'exemple du Christ qui est toujours le fondement pour toutes les autres choses qui sont dites. Par rapport à ce texte, j'aimerais tout à l'heure dégager 4 principes par rapport à la vie familiale. Comme je vous propose de considérer la vie familiale comme un terrain, vous pouvez prendre un terrain de foot, tout à l'heure il a été fait allusion à un terrain de foot, au foot, le terrain de la vie familiale, si vous voulez, et je propose que ce terrain est comme délimité à quelque part par 4 poteaux qui sont dans les 4 coins du terrain, et c'est sur ce terrain que se vit la vie familiale avec tout ce que ça implique, de très concret, de très beau, mais des fois aussi de très exigeant. Dans le texte, si on peut revenir en arrière, Paul s'adresse d'abord aux enfants, et puis, il s'adresse à eux justement en se référant notamment à l'Ancien Testament. Donc, il va situer ce qu'il a dit aux enfants, en l'occurrence, dans l'histoire de Dieu avec les hommes. De nouveau, c'est cette histoire et comment elle se déroule, comment elle se dénoue aussi, qui est fondamentale pour comment les enfants, en l'occurrence, se situent dans la famille. Et bien sûr aussi pour les parents, puisque c'est par les parents que les enfants vont apprendre ce que c'est que de vivre en famille. Alors on peut revenir à la prochaine diapo. Et j'aimerais proposer comme premier poteau fondamental pour la vie familiale, on peut aller au prochain, l'alliance. Et là, j'ai de la chance parce que je n'ai pas besoin de faire un long exposé sur l'alliance, sur les alliances. On en a déjà parlé il y a 2 semaines, quand on s'est arrêté plus spécifiquement sur le couple. Vous vous souvenez, le couple qui, d'après Paul, d'après l'Ancien Testament, est basé sur l'alliance que Dieu fait avec le couple, Dieu qui s'engage avec le couple. Et dans ce sens-là, pour les enfants qui normalement naissent dans une relation père et mère, les enfants se situent donc aussi d'emblée dans le cadre de cette alliance que les parents ont conclue ensemble avec Dieu. Je vous rappelle que l'alliance, dans la pensée biblique, est un engagement inconditionnel dont l'exemple suprême est montré par Dieu dans les différentes alliances qu'il a conclues avec les hommes. Écoutez bien, de la part de Dieu, ces alliances sont toujours des engagements inconditionnels. Dieu ne dit jamais, voilà, je m'engage dans une alliance, mais peut-être, si ça ne marche pas très bien, je vais me retirer de cette alliance. Jamais, d'après ce que je comprends dans la Bible. Donc Dieu va toujours s'engager jusqu'au bout dans les alliances qu'il conclut avec les êtres humains et qu'il soutient, qu'il encourage les êtres humains à faire, comme l'alliance du mariage. C'est de la part de Dieu toujours un engagement irrévocable. C'est donc aussi le modèle que Dieu institue pour le couple, et dans ce sens-là, c'est là un cadre que Dieu veut, bien sûr, à quelque part un cadre idéal, puisque ça se complique un peu à cause de notre humanité, mais c'est toujours un cadre de sécurité où Dieu fondamentalement invite à des engagements entiers. C'est dans ce sens-là que dans le couple et la famille, on devrait pouvoir parler d'amour inconditionnel. Alors par rapport aux enfants, lorsqu'un enfant naît dans une famille, je pense que le projet de Dieu, c'est que les parents qui accueillent un enfant, et on peut l'étendre aussi à des adoptions par exemple, dans l'idée de Dieu, c'est que les parents ne vont pas dire « Ouh là là, alors il y a un enfant qui vient, qu'est-ce que ça va bousculer notre vie ?» Ça, ils vont le découvrir parce que ça va bousculer leur vie. Mais l'idée, c'est que les parents se disent « Voilà, dans le cours des choses, hein, ou comme on l'a choisi, si on peut choisir, voilà, on va accueillir un enfant et cet enfant va être notre enfant que Dieu nous confie et nous allons l'aimer cet enfant d'une manière inconditionnelle. Ça veut dire jusqu'au bout, on ne va jamais le rejeter, on ne va jamais l'abandonner, on va simplement être fidèle à ce cadeau que Dieu nous fait jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, on ne va pas peut-être devoir, dans certaines situations extrêmes, se séparer de l'enfant. Je pense à des situations quand un enfant doit aller dans une institution ou autre. Ce n'est pas un abandon de la part des parents, mais l'engagement de cœur est concret envers l'enfant au moment où on l'accueille, où on donne naissance à un enfant. C'est quelque chose qui s'inscrit dans cet engagement inconditionnel qu'on est appelé à faire à la suite de Dieu, parce que Dieu s'engage envers nous d'une manière inconditionnelle. Vous voyez, pour l'enfant, on a peut-être vécu des choses différentes, mais dans ce projet de Dieu, quand il y a cette attitude-là, les parents sont là pour vraiment s'investir. Et au fur et à mesure qu'ils vont apprendre à être parents, ils vont découvrir, recevoir ou acquérir ce qu'il leur faut pour être parents. Mais voyez un peu le cadre de sécurité à quelque part qui découle de cela. S'il y a cet amour, cette volonté de construire ensemble et aussi d'affronter les difficultés ensemble, ben l'enfant va découvrir un cadre de sécurité. Il ne va pas tout le temps se dire « Oh là là, il faut que je fasse tout bien pour qu'on m'aime ». Mais à quelque part, il y a ce cadre que Dieu nous offre déjà à nous-mêmes, à chacun de nous, qui est le cadre d'un amour inconditionnel. Ça, c'est le premier poteau et il est extrêmement important. Je crois que ça, c'est le projet de Dieu. Il y a un deuxième poteau, c'est la grâce. La grâce. Un peu avant notre texte principal qu'on a lu tout à l'heure, Paul avait exhorté, appelé les chrétiens à être eux, à vivre entre eux d'une certaine manière. Il leur a dit, dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. » Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous. La grâce de Dieu, c'est qu'il nous a accueillis en Christ. Intégrer la grâce dans les vies familiales, comme dans la vie du couple d'ailleurs, ou dans la vie d'église, c'est reconnaître que nous avons besoin de pardon, que le pardon est un élément absolument fondamental pour la vie de famille et de couple. Et tous les couples, toutes les familles ici présentes savent à quelque part que ce serait quand même une bonne chose, et c'est une bonne chose, que de se pardonner. Le pardon est un élément absolument fondamental dans la vie de la famille qu'on découvre, qu'on apprivoise. Dans notre famille, dans mon expérience du moins, c'est quelque chose qui est extrêmement exigeant. Pas dans le sens que nous vivons d'une manière où on dit à l'autre « Oh là là, il faut pardonner, tu dois me pardonner parce que tu m'as fait mal. » Ce n'est pas tellement cette manière-là de vivre le pardon. Si on suit l'exemple du Christ qui cherche l'intérêt de l'autre, quand nous sommes dans des situations de conflit, on va être interpellé soi-même en premier. Pas toujours automatique, mais c'est comme ça que, en tout cas moi, j'essaie de le vivre. Quand nous sommes devant des difficultés, de me dire d'abord « Attends, dans ce qui se passe là, quelle est ta responsabilité ? Dans quelle mesure toi, tu peux travailler d'une manière constructive pour qu'on trouve la paix, pour qu'on reste constructive ?» Et dans ce sens-là, c'est vrai, le pardon, de reconnaître que j'ai besoin, des fois, et malheureusement souvent, de demander pardon à l'autre, est vraiment une des clés pour une vie familiale. Et Dieu ne nous dit pas « Attention, faites tout pour ne pas que vous ayez besoin de demander pardon. » Mais oui, ce serait un peu l'idéal. Mais quand on vit ensemble, tôt ou tard, on a besoin de demander pardon. Et c'est le cadre d'un amour inconditionnel qu'on s'accueille les uns les autres qui permet de développer le pardon et de vivre le pardon dans la durée. Donc c'est un deuxième élément fondamental, le pardon, donc basé sur la grâce de Dieu, Dieu qui est un Dieu de grâce et qui nous pardonne toujours. Troisième poteau, c'est la manière dont nous vivons l'autorité, la manière dont nous investissons dans la famille. Et là, j'aime bien ce principe de l'objectif de rendre l'autre capable ou de donner du pouvoir à l'autre. De nouveau, on l'a entendu tout à l'heure, c'est ce que Christ a fait. Il est venu, il est devenu humain pour nous permettre de devenir enfants de Dieu. C'est une logique assez contre nature, parce que mon autorité, j'aimerais bien souvent ou parfois l'utiliser plutôt en sorte de pouvoir faire à l'autre faire ce que j'aimerais qu'il fasse ou qu'elle fasse. Hein, c'est une sorte de recherche de pouvoir, d'autorité qui n'est peut-être pas tout à fait pure. Je crois que la Bible nous invite à autre chose, profondément, à chercher à ce que l'autre puisse croître, à ce que l'autre puisse grandir. Et dans l'éducation, les parents, on sait que quand le bébé est là, ce n'est pas encore lui qui va faire la vaisselle jusqu'à nouvel avis. Il ne va pas aller se changer lui-même. Par contre, en prenant soin, je vois des parents qui sourient là, il va y avoir quelque chose. C'est vrai qu'on va apprendre à l'enfant à grandir, on va faire tout pour qu'il puisse grandir. Et dans ce sens-là, même si nous avons encore un peu tous les pouvoirs sur l'enfant quand il est petit, on peut déjà développer cette optique, et c'est d'ailleurs très intéressant. Tiens, dans ce que je fais pour l'enfant, comment vais-je l'aider à grandir, à se développer, à lui-même acquérir, à quelque part, des capacités et du pouvoir. Donc le troisième principe pour une vie familiale basée sur la parole, c'est rechercher comment on peut s'édifier les uns les autres. Et dans Éphésiens, il y a tout un texte qui montre que la vie de l'Église, elle est orientée comme cela. Faire grandir les autres, c'est la même logique dans le couple et dans la famille. Alors c'est de manière très simple, mais c'est toute une orientation qui ne va pas de soi et que nous apprenons. Permettre à l'autre d'acquérir et de développer du pouvoir et des compétences. Et puis, je ne vais pas faire trop long, il y a le quatrième poteau. Je le dis comme ça, vivre, manger, jouer, changer les pampers, prendre soin d'un parent aîné, aller au travail pour gagner de l'argent, pour soutenir la famille, faire l'amour dans la présence de Dieu. Bon, j'ai mis se disputer avec un point d'interrogation. Certains vont dire, ouais, ben, quand on se dispute, Dieu tourne le dos. Je ne sais pas. Je sais qu'il ne le fait pas quand on fait l'amour. Donc, je pense que quand on se dispute, Dieu ne nous tourne pas le dos. Il est là aussi. Il regarde, peut-être qu'on l'a mis un peu à distance, hein, mais Dieu est là. Dieu est là. Et c'est à quelque part le quatrième poteau que j'aimerais vous proposer. Il n'est pas nouveau, hein. Il ne concerne pas seulement la vie de famille. Mais dans la famille, on a, surtout si on commence une famille, on a un certain nombre de possibilités pour développer un cadre familial, pour vivre sur ce terrain de l'éducation qui va favoriser ou bien pas favoriser cela. Et ça, en particulier face aux jeunes parents et ceux qui pensent un jour avoir des enfants ou qui en auront peut-être bientôt, c'est vraiment une orientation où quand les enfants sont petits, jeunes, on peut beaucoup, beaucoup faire pour avancer dans cette direction d'apprendre aux enfants à vivre devant Dieu, dans tout ce qu'on fait. Quand nous décidons ce que nous faisons comme activité avec nos enfants, quand nous décidons à quel moment on aura la télé ou on va l'utiliser, quand nous décidons à quel moment, etc., etc., nous pouvons mettre, faciliter des choses que nous savons être bonnes. Alors au fur et à mesure que les enfants grandissent, ça va devenir plus compliqué, plus complexe. C'est vrai. Et aussi bien que nous ferons comme parents dans notre vie, on peut être des parents qui faisons tout ce qui est possible avec l'aide de Dieu. On n'aura néanmoins jamais une garantie qu'on va aboutir à ce qu'on aimerait tous pour nos enfants. Ce n'est pas, la Bible ne nous donne pas des recettes qui vont permettre de réussir à tout prix. Pourquoi? Parce que l'histoire de Dieu avec nous, c'est une histoire qui s'inscrit dans la réalité d'un monde qui reste déchu, avec des êtres comme nous qui restent affectés par le péché. Et les enfants peuvent, malgré toutes nos précautions, arriver dans des situations que nous n'aurions en tout cas pas choisies, qu'ils n'ont peut-être pas forcément choisies volontairement, et puis qui les mènent sur des chemins qui nous échappent. Et dans ces situations-là, Dieu ne va pas venir nous faire la leçon. Il va rester avec nous, puisque nous allons continuer à vivre les difficultés, à passer au travers des conflits, des temps de crise, en comptant sur Dieu. Vous voyez un peu la logique, le fondement, l'alliance, l'engagement de Dieu avec nous. Deuxièmement, la grâce, le pardon toujours possible. L'orientation de chercher à faire grandir l'autre, c'est ce que Dieu fait avec nous. Et puis, cette décision de vivre ce que nous vivons dans la présence de Dieu concrètement. Et je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est plus facile peut-être quand les enfants sont jeunes et quand les parents sont d'accord de vivre ensemble une spiritualité de couple et de famille qui donne une grande place à Dieu et puis qui se développe, qu'on peut aussi toujours, si on se rend compte que peut-être qu'on n'est pas tout à fait dans la cible qu'on aimerait atteindre, on peut toujours, à n'importe quel moment, à n'importe quelle étape de la vie, tant qu'on est en vie, demander à Dieu de venir à notre secours. Je termine avec cette pensée. J'ai commencé par dire justement, la famille fait partie de l'Église. Tout à l'heure, on a pu prier pour nos amis. Hein. Je pense une des tâches de l'Église, c'est de prier, pas seulement pour des ministères spécifiques, hein, comme on a pu voir, mais aussi prier régulièrement pour les familles, pour les parents, aussi pour les familles monoparentales, bien sûr, parce que Dieu est toujours le Dieu qui construit et qui marche avec nous. Et c'est pour ça, hein, que nous voulons vivre, jouer, peut-être nous disputer dans la présence de Dieu, en l'invitant à venir éclairer notre maintenant. Et c'est ce qu'on va faire maintenant par la prière. Amen.
Pendant que Thomas parlait, merci Thomas, je pensais à ce tabouret, en pensant aux quatre points qu'il a donnés, aux quatre pieds du tabouret. On peut avoir un pied qui manque, un pied qui est presque pas, qui est trop court, et que vraiment, je crois que Dieu est vivant aujourd'hui encore, et il peut restaurer les pieds. Si jamais il nous manque des pieds, Thomas a invité aussi les gens à recevoir la prière. Bon, maintenant, on va prier tous ensemble, mais ne vous privez pas d'une prière de frères et de sœurs pour vous, pour votre famille, à un autre moment. Je vous invite à faire quelques prières en ce moment.